de certaines questions qu'on va affronter dans une discussion avec un non-croyant. Donc, Abuna Daoud a choisi les plus importantes pour discuter et trouver des réponses logiques et selon l'Évangile pour à leur répondre. La première question, c'est « Et les païens, seront-ils condamnés à l'enfer ?» D'habitude, en discutant avec un non-croyant, il essaye de nous attaquer avec des questions qu'on ne puisse pas répondre. Alors, on doit être sûr de notre foi et de notre Bible, et on doit aussi leur montrer que le premier point qu'on a, que n'est pas toutes les choses sont révélées. Selon le verset, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuer afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. بالعربي السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. Alors le premier point qu'on va leur dire que c'est pas toutes les choses qui sont révélées pour nous. On a des choses qui sont révélées qu'on peut discuter avec vous et d'autres choses qui ne sont pas révélées et qui sont à Dieu. Et ça c'est un point positif dans notre religion parce que on est réaliste. Tandis que dans d'autres religions, ils disent qu'on ne peut pas connaître toutes les choses, on doit faire ça sans demander, on ne doit pas demander, on doit suivre seulement. Et dans d'autres religions, il y a des gens qui disent qu'on peut être comme notre Dieu si on atteint une certaine limite ou un certain niveau de connaissance, alors on peut atteindre notre Dieu. Alors, ça c'est un point positif avec lequel on peut répondre qu'on est réaliste et que notre Dieu c'est le seul qui connaît toutes les choses et nous, il nous a révélé certaines choses qu'on peut nous répondre et d'autres on ne peut pas leur dire. À propos des païens, s'ils vont être condamnés à l'enfer ou pas, c'est ce qu'on sait que s'ils connaissent Jésus-Christ et ils le refusent, alors c'est sûr et c'est révélé dans la Bible qu'ils vont être condamnés. Mais s'ils ne l'ont pas connu, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va leur arriver. Alors, c'est la deuxième question qu'ils vont nous demander. Que personne ne sera condamné par son ignorance de Jésus. Parce que notre Jésus, il est juste et équitable. Et d'après ici le passage de Romains, tous ceux qui ont péché dans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs, dans leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtrait au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et si saint Paul a jugé les Juifs qui avaient le commandement et qui ne le suivaient pas, il a dit que ces gens-là seront condamnés, tandis que les païens qui n'avaient pas des commandements à suivre et qui suivaient leurs commandements par instinct et qui faisaient le bon, alors seront couronnés. Les Écritures indiquent que chaque personne a assez d'informations de la création qui démontrent la présence du Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. إذا معرفة الله طاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم إن أمور غير منظورة ترى منذ الخلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السر مادية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. Alors ici, la création est toutes les choses autour de nous révèlent l'existence d'un créateur qui a fait tout ça. Alors, on peut pas ignorer ça, et les gens qui voient ça et qui ignorent seront condamnés. Si les personnes réagissent à la lumière qu'ils ont reçue et cherchent Dieu, il leur donnera la chance de savoir la vérité de Jésus. Cela a été manifesté dans le verset « Vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tous vos cœurs. » Alors ici, on croit que notre Dieu est un Dieu vivant et il va répondre à notre prière. Et c'est pour cela qu'on doit pousser les gens à commencer à prier. Si les gens commencent à douter que s'il y a Dieu ou pas, on doit les pousser à prier pour que Dieu leur révèle son existence. La Bible a révélé un autre secret que c'est le seul moyen vers le ciel, c'est d'après Jésus-Christ. Et la Bible n'a pas donné d'autres options avec lesquelles on peut atteindre le ciel. C'est le seul moyen, c'est d'après Jésus-Christ. Alors on ne peut pas dire que le christianisme est un des moyens avec lesquels on peut atteindre le ciel, mais c'est le seul. Comme ici dans les versets, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص. Ça, c'était la première question. Alors, pour nous, c'est notre mission de révéler ce secret à tout non-croyant qui nous demande cette première question. La deuxième question, c'est le Christ est-il le seul chemin vers Dieu? Ici, la science apologétique, qui est la science qui défend la foi chrétienne, a mis quatre possibilités, en traitant Jésus comme une personne normale et mettre ces quatre possibilités. Soit qu'il soit un homme menteur parce qu'il a dit qu'il est Dieu, et on va discuter les quatre possibilités et comment ils ne sont pas corrects. Les trois d'entre eux ne sont pas corrects. La première, c'est que Jésus est un menteur. Pourquoi Jésus ne peut pas être un menteur? Parce que comment il a pu convaincre des milliers à travers les siècles? On peut leur demander cette question. Les gens, les êtres humains d'habitude veulent des plaisirs mondains, tandis que les gens qui ont suivi Dieu ont sacrifié tous leurs plaisirs mondains et l'ont suivi et ont été prêts à mourir douloureusement pour lui, pour sa foi et pour tout ce qu'il leur a dit. Il y a aussi, il était considéré par les philosophes comme étant un homme philosophe et un merveilleux éducateur. Alors les philosophes étaient des personnes expérimentées dans les analyses des êtres humains. Alors comment ils peuvent dire ça à une personne qui est menteuse? C'est pas logique. Alors la première possibilité n'est pas valable. On passe alors à la deuxième possibilité, qu'il est fou. Étant fou, est-ce qu'il a jamais agi d'une manière déséquilibrée ou a-t-il manifesté un signe de folie? Personne n'a dit ça. Dans tous les livres d'histoire, dans la Bible, dans n'importe où, personne n'a dit ça. D'après la Bible et les livres de l'histoire aussi, personne n'a accusé Jésus d'être fou, sauf les Juifs, et seulement quand il leur a dit que « Je suis Dieu » et vous êtes les fils du diable. Et quand même, malgré ça, beaucoup d'entre eux l'ont suivi et ont cru dans sa foi et que c'était lui le Fils de Dieu et lui qui est venu de Dieu. La troisième question qu'on peut leur demander pour prouver que ça, c'est pas correct, est-ce que si quelqu'un qui est fou, est-ce qu'il peut tenir à ses idées jusqu'à sa crucifixion? Je ne pense pas que quelqu'un peut tenir jusqu'à sa mort et à ses souffrances, à ses idées. La quatrième question qu'on peut leur demander pour prouver que ça, c'est pas correct. Est-ce que quelqu'un qui est fou allait suivre les anciens et nouveaux commandements de l'Ancien Testament et de ceux qui disaient d'aimer ses ennemis jusqu'à la croix, il aimait ses ennemis et il priait pour eux? Je ne pense pas que quelqu'un qui est fou peut faire ça. La troisième possibilité qu'on a, que Jésus est une légende qui fait des mythes. Il ne peut pas être une légende parce que beaucoup d'écrivains l'ont nommé dans leurs livres d'histoire. Il est plutôt homme de morale et de miracle, dont beaucoup de témoignes l'ont prouvé. Alors il nous reste que la quatrième possibilité, que Dieu est la vérité, que Jésus-Christ est la vérité, que personne n'a pu prouver autre que ça. La troisième question, pourquoi est-ce que les innocents souffrent? Cette question est très critique parce que beaucoup de gens de l'Afrique, ils souffrent beaucoup et quand on aille là-bas pour leur dire que notre Dieu est un Dieu d'amour et on prêche que notre Dieu est un Dieu d'amour et il aime tout le monde et il va te soulager et ces trucs-là, alors il demande une question très commune, que si Dieu est amour, alors pourquoi il laisse souffrir ses enfants par des maladies, par des guerres, par des pauvretés? Alors, on va leur dire qu'on va commencer par l'histoire de cette souffrance, que la création de Dieu était parfaite, manifestée en Adam et Ève. Il les a créés parfaitement, sans péché, sans souffrance, mais c'est eux, par leur volonté, par leur toute volonté humaine, c'est eux qui ont désobéi les lois de Dieu. Et c'est Dieu, parce qu'ils aiment beaucoup l'homme, et il lui a donné la liberté de choisir, malgré que cette volonté peut être parfois contre la volonté de Dieu lui-même, alors il a permis au mal d'exister dans le monde à cause de la désobéissance de Adam et Ève. Tout péché affecte notre entourage. Chaque péché a un effet dans tout notre entourage. Si on est des pères qui a des enfants et on commence à mentir, par exemple, nos enfants commencent à faire comme nous et puis les gens autour de nous commencent à savoir qu'on est un menteur et commencent à se méfier un peu de nous. Alors, ça affecte tout notre entourage. Et à cause de la violation de la loi de Dieu, c'est que le mal a envahi l'univers. Quand Adam a péché, il a commencé à souffrir de la maladie, la faim et la mort. Mais avant ça, il avait une vie éternelle, il ne souffrait de rien. Alors, le péché, c'est la cause de toutes nos souffrances. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'histoire de la souffrance. La solution, c'était l'incarnation. Jésus est venu lui-même dans un corps humain pour résoudre nos problèmes, mourir pour nos péchés, pour convaincre la mort et rétablir la justice. Parce qu'on a déjà dit que Jésus est juste et amour. Alors ça, c'est une preuve. Il est venu pour partager nos souffrances avec nous. Et il est juste parce qu'il est venu et il s'est incarné pour rétablir la justice encore une fois sur la terre. La conséquence par laquelle, si Jésus n'était pas venu, On peut leur poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez que ça va se passer que si Jésus n'est pas venu? Une des réponses qu'on a pensé à, c'était qu'on aurait pu accuser Jésus de ne pas nous sentir nos souffrances, de ne pas se soucier de nous. Alors, on ne peut jamais apprécier sa promesse de vie éternelle sans ses souffrances. Le résultat de notre acceptation pour cette... Le résultat de notre acceptation pour cela, les tests de la vie spirituelle nous aident à apprendre l'amour, la sagesse, l'humilité, savoir prier, la douleur des autres, à la sentir. Aussi, quelles que soient nos souffrances sur la terre, nous avons un futur éternel car nous appartenons à notre Sauveur Jésus-Christ. Alors on doit être sûr que par ces souffrances, on aura une vie meilleure. Si on les dépasse comme il faut, comme Jésus nous a dit de comment les dépasser en suivant son exemplaire. La quatrième question. C'est comment les miracles peuvent être possibles. Pourquoi les gens, la première question qu'on doit leur poser, c'est pourquoi les gens ne croient pas aux miracles. La première question qu'on doit se poser nous-mêmes, pourquoi les gens ne croient pas aux miracles. On doit avoir un background des personnes avec lesquelles on parle. Alors, les Occidentaux sont un peu logiques. Alors, ils refusent toute chose contre la nature. Mais dans notre foi chrétienne, on sait bien et on croit bien que Jésus-Christ est le Sauveur et il est capable de faire toute chose. Alors, encore une fois, pourquoi les miracles sont possibles? Si on parle avec quelqu'un qui dit que oui, peut-être il y a un Dieu qui a créé tout le monde, alors on va lui dire que si Dieu existe, et qui a créé tout le monde, et qui a créé les lois de tout l'univers, et qui a créé l'homme et toutes choses dans le monde, alors est-ce qu'il est tout puissant, alors est-ce qu'il ne peut pas changer les lois qu'il a déjà créées? Est-ce que ça c'est logique? Ou c'est plus logique de son pouvoir de changement pour n'importe quelque chose qu'il a créé? Et ici on a vu plusieurs exemples, comme marcher sur la mer, les deux poissons et les cinq pains, les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge, ce sont des exemples de miracles qui ont été écrits dans tous les livres de l'histoire et qui ont été vécus par des gens humains comme nous et qui révèlent que notre Dieu est tout puissant. Alors, la question suivante dans la discussion sera, je pense, que alors si tu nous dis que Dieu est tout puissant et il est capable de faire des miracles et de changer les lois de l'univers qu'il a déjà créé, alors pourquoi il veut faire ça? C'est quoi son idée pour faire des miracles? Alors on lui répond en disant que Dieu pousse toujours l'humanité vers la perfection ou la norme dont il a d'abord créé l'homme sur cette forme. Alors, en faisant ces miracles et en détruisant les lois qu'il a déjà créées de la nature, il aide l'homme à retourner à sa forme principale de perfection. Par exemple, la guérison des cas désespérés approche l'homme de son état original parfait, comme la vie éternelle, il n'y a aucune maladie, aucune souffrance et sans mort. Alors c'est ce que Dieu essaye de nous offrir par les miracles. C'est pour cela que les miracles sont possibles et c'est la cause pour laquelle Dieu fait les miracles. La cinquième question, c'est la Bible n'est-elle pas pleine d'erreurs? Il y a trois genres de gens qui d'habitude posent cette question. Ce sont les sceptiques, les agnostiques et les païens. Les sceptiques, ce sont les gens qui doutent de tout. Les agnostiques, ce sont quelqu'un qui pense que l'absolu est inaccessible. Et les païens, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ces gens prêchent que la Bible est pleine d'erreurs parce qu'ils ne l'ont pas lue. Et pour nous, quand on aura une question pareille, on ne doit pas se paniquer, on doit poser la question à ce non-croyant en lui disant « C'est quoi les erreurs que tu as trouvées ? Tu peux me les apporter et on peut les discuter ensemble. » Et si on n'a pas les réponses, on peut chercher dans les livres parce que on a toutes les réponses à n'importe quel doute de n'importe quelle personne dans le christianisme. La sixième question, c'est l'expérience du christianisme. Est-elle purement psychologique? Bon, certains pensent que, certains occidentaux en fait pensent que les états de voix et l'éducation qui reflètent l'esprit des non-croyants traitent le christianisme comme uniquement une expérience psychologique. Tandis que pour nous, les chrétiens, on parle de croyance, de compréhension et de style de vie. Nous ne parlons pas des idées étranges ou inacceptables. Nous ne parlons pas des expériences qui ont touché les uns et pas les autres. Le christianisme a touché la plupart des gens qui sont convertis, qui entourent Jésus et ils sont convertis, ils ont eu la foi chrétienne. Alors on ne peut pas dire que c'est psychologique ou pas. En plus, il n'est pas psychologique parce que s'il était psychologique, il aurait être lié aux gens émotionnels. Parce que si on parle d'une expérience psychologique, pas tout le monde, les gens, pas tous les gens qui sont émotionnels qui vont être affectés par cette expérience psychologique. Il s'est répandu aussi dans des différentes cultures, dans des pays avec des différentes traditions et durant des différentes périodes de temps. Alors, si on prend la dernière des différentes périodes de temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, si c'était psychologique et si on dit que les gens avant étaient plus émotionnels que maintenant, mais maintenant aussi le christianisme se répand et très fort, alors on ne peut pas dire que c'est une expérience psychologique. On a aussi une dernière preuve que les philosophes qui ont été convertis et qui ont écrit des livres sur le christianisme et aussi qui sont morts pour leur foi. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils vivaient une expérience seulement psychologique. La seule constance sur laquelle on base notre référence, c'est l'exemplaire de Jésus-Christ. Dans le christianisme, on n'est pas concerné autant de la façon de sentiments que autant de la façon avec laquelle on vit notre christianisme. On n'est plus concerné de la façon avec laquelle on vit le christianisme que des sentiments. Le christianisme, c'est de faire de son mieux pour avoir une vie éternelle. Alors, de se transformer d'une personne immortelle à une pure, d'un voleur à une personne honnête, d'un menteur à une personne confiante, d'une haine montée à une aimable. La septième question qu'on a, c'est pourrais-je aller au paradis en menant une bonne vie morale? Dans une discussion avec un non-croyant, c'est une question prévisible. Parce que s'il n'a pas pu vous débattre en discutant, alors il va essayer de s'échapper du sujet, il va dire, mais bon, moi, je crois dans tout ce que tu as dit, mais si je suis une bonne personne, je ne peux pas, en fait, avoir une bonne vie morale et aller au ciel. Bon, il y a une différence ici, on a une différence entre la justice de l'humanité et la sainteté infinie de Dieu. La justice de l'humanité, c'est que personne ne peut être parfait. Et personne ne peut essayer d'être parfait sans le pouvoir de Dieu. Ça, c'est la justice humaine. Tandis que la sainteté infinie, c'est que Dieu nous a donné Jésus qui s'est incarné et qui était le seul homme parfait sur la terre. Je vais vous donner un autre exemple pour clarifier un peu ce point. Que si je veux apprendre à nager, par exemple, et je vois quelqu'un et je mets mon enfant par exemple dans la mer comme ça pour se noyer, pour qu'il commence à frapper avec ses mains et commence à nager. Après quelque temps, il sera capable de nager, mais il sera pas compétent d'aller dans des compétitions et gagner. Il doit avoir un entraîneur, un exemple à suivre. C'est ça la différence entre la justice et la sainteté infinie de Dieu. La cause pour laquelle on doit partager notre vie avec Dieu. On doit partager notre vie avec Dieu et on doit être comme lui. On doit être soumis à son autorité, sa justice, sa sainteté pour jouir sa vie éternelle. Parce que il nous a promis d'une vie éternelle. Si on le suit ici sur la terre, on sera capable de comprendre et de jouir sa vie éternelle. Mais si on ne suit pas son chemin, comment on peut savoir et imaginer et être heureux dans sa vie éternelle si on n'est pas heureux en suivant ses commandements sur la terre? Il y a aussi une dernière comparaison entre l'incroyable optimisme de la justice de l'humanité et l'incroyable ignorance de la sainteté infinie de Dieu. Parce que parfois on dit que quelqu'un il est bon, il est parfait, je sais pas. Mais pour Dieu, peut-être cette personne elle est très mauvaise. Parce que les moyens de classification selon nous n'est pas la même que selon Dieu. Alors ça c'est justement on ignore la sainteté infinie de Jésus, parce que rien ne peut être comparé à Jésus qui est tout puissant, qui est sans péché. Alors on peut pas faire ça. Personne n'arrive à la perfection qu'à travers le pouvoir de Dieu. C'est ça la conclusion de ce point. Enfin, le problème essentiel est le moral. La croyance n'est pas le problème. Le problème est que les personnes ne pourront pas visualiser le changement radical qui aura lieu dans leur vie. En parlant avec des non-croyants, ils ne peuvent pas sentir ou voir ce changement dont on leur explique. On essaie de leur expliquer. C'est pour cela qu'ils résistent un peu. Mais en leur poussant à commencer à prier et à commencer à vivre ça et sentir ça, ils peuvent commencer à sentir ce changement radical qui va être dans leur vie, qui va se passer dans leur vie, et qui vont aussi peut-être commencer à parler de ce changement aux autres et prêcher de ça. Les personnes doivent être prêtes à la croyance avant qu'elles croient, parce que parfois on parle avec des personnes qui ne sont pas prêtes même à nous écouter. Alors les personnes avec lesquelles on parle doivent être prêtes à accepter ce qu'on leur dise. Sinon, ils vont jamais croire. Mais quand même, on va leur parler. Nous-mêmes devons être convaincus de la vérité que nous proclamons pour pouvoir convaincre les autres. Parce que si on n'est pas convaincu de ça, on peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. On doit être bien convaincu et bien confier de ce qu'on dit aux autres, sinon on ne peut pas leur transmettre notre foi. Et enfin, on n'enseigne pas des fables ou des choses qui n'existent pas. Et selon le verset ici, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conclues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
إذا عرفنا كم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معينين عظمته.
Merci.